Chapitre 8. Vous qui partez serez nos yeux. Jamais il n'y avait eu autant de bruit et de cris sur les rives du fleuve, même pour le tournoi de l'étoile. Tous les ados, à l'exception de Bill et Mordelia, étaient réunis devant le quai du Point du Jour. Si certains soldats continuaient de brandir des drapeaux rouges, quelques singes des drapeaux bleus et de rares savants des drapeaux d'or, l'immense majorité de l'assistance agitait de grands étendards verts sur lesquels était dessinée une tête de cerf. D'autres portaient des casques auxquels étaient accrochées des branches d'arbres. Sabie, elle, avait déniché dans des musées de la ville des vieilles tenues de marins. Elle les avait distribuées à une dizaine de Lolly Girls et toutes étaient venues déguisées avec des casquettes de capitaine, des bonnets à pompons, des pulls à rayures et des bottes de plastique en chantant à tue-tête, au pied du grand voilier, la chanson d'au revoir composée pour l'occasion par Soutim. Vous qui partez serez nos yeux. Nous garderons votre cœur. Vous qui partez, cherchez le mieux. Nous parions qu'il se trouve ailleurs. Sous la bannière verte du cerf, nous vous chantons ces quelques vers. Partez, même si nos cœurs se serrent, revenez-nous avant l'hiver. Un soleil éclatant s'était installé sur la ville depuis la fin officielle des cours, 4 semaines plus tôt, comme si les vacances étaient forcément synonymes de ciel bleu, de plongeons dans le fleuve et de balades en forêt. Seul, en couple ou en groupe, chacun était libre. Certains préféraient l'ombre des parcs de Paris, d'autres, au contraire, le plein soleil des rives du fleuve pour de longues baignades au pied du château ou de l'île aux cygnes. Mais cette fois, quai du Point du Jour, personne ne manquait à l'appel. C'était l'endroit de Paris où le fleuve était le plus large et où il disparaissait vers des terres inconnues, après un long virage entre les dernières tours de Paris, un méandre, aimait préciser Solario. Vous qui partez pour d'autres lieux, Marie-Lune veille sur notre bonheur. Et si ce monde était trop vieux, nous en construirons un meilleur. Sabie et sa chorale continuaient de chanter à plein poumon. Certains reprenaient le refrain avec elle, mais la plupart se contentaient de lever les yeux vers les trois mâts du voilier. Solario avait escaladé le premier, le mât de misaine. Agnelle avait grimpé au sommet de celui du milieu, le grand mât, et Leonarda se suspendait au cordage du troisième, le mât d'Artimon. Tous les trois agitèrent les mains afin de réclamer le silence. Et soudain, d'un geste coordonné, ils dénouèrent les cordes qui retenaient les voiles. Elles tombèrent ensemble, tels d'immenses rideaux blancs, presque jusqu'au pont du bateau. Le vent les gonfla immédiatement. Les ados, massés sur le quai, eurent l'impression que le voilier, simplement retenu par 6 cordes au plot d'amarrage, allait s'envoler. Un tonnerre d'acclamations accompagna le lâcher des voiles. Des drapeaux se dressèrent sur chaque rive. Des cerfs-volants volaient autour du trois-mâts. Vert, décoré de bois, à l'effigie de l'animal totem des ados. Ils n'avaient jamais aussi bien porté leur nom. Certaines filles s'étaient perchées sur les réverbères du quai et lançaient des pétales de fleurs et des confettis. Agnelle grimpa encore de quelques mètres et accrocha le drapeau. Une longue bannière, verte à tête de cerf. Les acclamations redoublèrent. On le verrait de loin, de très loin.
« Vive l'Albatros !»
cria Braza.
« Vive l'Albatros !»
reprit toute la foule alors que les chœurs de Sabie chantaient plus fort encore. « Sous la bannière verte du cerf, nous vous chantons ces quelques vers. » C'est ainsi que le voilier avait été baptisé, l'Albatros. Le projet Albatros avait été voté par le Conseil il y a plus de 6 mois, à l'unanimité. Il s'agissait de commencer par choisir le moins abîmé de tous les bateaux amarrés le long du fleuve, de le réparer, puis de former une équipe capable de piloter un tel vaisseau. Quand il serait prêt, il descendrait le fleuve jusqu'à la mer. Aujourd'hui était le grand jour. Après 6 mois de travail acharné, l'Albatros était prêt. « Partez, même si nos cœurs se serrent, revenez-nous avant l'hiver. » La mission Albatros avait été confiée aux 2 ministres des voyages et des plantes, des animaux et de la terre, Solario et Agnelle, aidés d'une quinzaine d'autres, dont la plupart avaient participé à la réparation du soleil de fer dans la forêt. Braza, Osman, Leonarda, Cléa, Solveig. L'immense voilier tirait sur ses cordes, tel un fauve impatient, tout aussi impatient que les ados agglutinés. Ce voilier qui partait, c'était comme une fusée envoyée sur une autre planète. C'était la première fois qu'il sortirait de la ville, qu'il s'en éloignerait vraiment au-delà de la forêt. Et tous se posaient la même question. Après le premier méandre de la Seine, après 5 autres méandres, 10 autres méandres, qu'allait-il découvrir? D'autres enfants? D'autres enfants vivants? Mais s'ils existaient, pourquoi aucun d'entre eux ne s'était jamais approché de la ville? Et s'ils existaient, seraient-ils pacifiques? La mission était dangereuse, il n'était pas naïf. Par sécurité, 5 soldats, dont Novak et Helios, les 2 meilleurs archers, aidés de Clark, Noélie et Romagna, les accompagnaient. On les avait même équipés d'une arme redoutable, précise et meurtrière, une arbalète, interdite au château, mais que le conseil avait accepté de confier à l'équipage. Comment évaluer le danger qu'ils allaient devoir affronter jusqu'à la mer? Elle était la destination ultime de leur expédition. Ils seraient les premiers enfants du Nouveau Monde à la découvrir. Bien entendu, ils savaient tous à quoi ressemblait la mer. Ils avaient vu des tableaux, des photos, des cartes, mais cela n'avait sûrement rien à voir avec la vraie sensation des vagues qui viennent vous lécher les pieds, ni de l'air salé qui vous emplit le nez. Osman estimait qu'il faudrait 1 semaine de navigation pour l'atteindre, et au moins 2 ou 3 pour revenir en remontant le courant. « Vous qui partez serez nos yeux, nous garderons votre cœur. » Un monde entier à découvrir. Étaient-ils les premiers à s'y aventurer? Face à l'océan, ils pourraient voir jusqu'à l'horizon, cet horizon si lointain qu'on pouvait y lire la courbure de la Terre et au-delà duquel s'ouvraient d'autres continents, d'autres fleuves, d'autres villes. Vous qui partez chercher le mieux, nous parions qu'il se trouve ailleurs. Jusqu'où faudrait-il naviguer pour trouver la réponse à l'unique question qui leur importait, au fond? Pourquoi eux et eux seuls avaient-ils survécu? Au tipi, au château. Qui était-il? Fallait-il se rendre ailleurs pour comprendre ce qui s'était passé avant? Ils en avaient conscience. Dès que les ministres libéreraient les cordes reliant encore l'Albatros au quai, c'est vers un nouveau monde que tous, pas seulement les 20 marins, vogueraient. Alix s'avança. Elle portait une couronne de roses rouges coupée et tressée pour l'occasion. Sa fameuse couronne d'immortel avait disparu depuis 1 mois sans que personne ait découvert le moindre indice sur le coupable. Le vol paraissait même impossible. Il aurait fallu que quelqu'un s'introduise dans les appartements de la reine sans se faire voir de Chrysante ou de Zizo, casse la cloche de verre, puis reparte tel un fantôme avec la couronne, alors que les 9 membres du conseil d'un côté, Zizo et Chrysante de l'autre, accouraient juste après avoir entendu le bruit de verre brisé. Le vol avait pourtant bien eu lieu. Face à ce mystère absolu, on avait confié à Vanille, la plus méticuleuse de tous les ministres, le soin de coordonner l'enquête. Prudente, elle s'était renseignée auprès des savants sur la façon de relever des empreintes digitales et de poser des clés et des verrous sur les portes des salles où les stocks de nourriture du château étaient entreposés. Alix avait insisté auprès de ses ministres pour que la cérémonie de départ de l'Albatros soit la plus courte possible. Quelques mots, rien de plus. Les ministres avaient bien entendu protester. Liu voulait évoquer, au nom des savants, l'importance historique d'une telle aventure, comme le monde n'en avait pas connu depuis Christophe Colomb. Vanille avait dressé une liste de recommandations sur la gestion rigoureuse des rations de vivres et d'eau sur le bateau. Jean d'Arc tenait à rendre hommage à ses soldats qui partaient peut-être donner leur vie pour protéger les leurs. Et surtout, Isalis jugeait important de rappeler qu'on n'envoyait pas ce voilier pour découvrir le monde, car on disposait d'assez de livres, de tableaux et de documents pour cela. Il n'allait pas revenir avec, dans les cales, des bananes bleues et des moutons à 6 pattes. Non, selon la ministre du temps passé, on envoyait ce voilier pour civiliser les éventuels enfants sauvages que l'albatros pourrait croiser. Alix avait cependant tenu bon. Pas de discours. La météo, selon Brazard, était idéale, et l'albatros ne pouvait pas attendre. La reine avait aussi rappelé que la mission Albatros n'était confiée qu'à deux ministres, Agnel et Solario. Mais pour ne pas vexer son gouvernement, elle avait trouvé l'astuce de demander à chaque ministre de tenir une corde d'amarrage retenant l'Albatros au quai. Et, au signal, de tout lâcher. Alix poussa le fauteuil d'Augénor au plus près du voilier. Puggy, assis sur les genoux du conseiller, surveillait avec méfiance les grandes voiles blanches, dressant les oreilles chaque fois que le vent les faisait claquer. Augénor, lui, semblait davantage concentré sur les dizaines de drapeaux verts déployés, un discret sourire accroché aux lèvres. Lors du dernier conseil, il avait officiellement demandé que son titre de « conseiller spécial de la reine » soit remplacé par celui de « grand serf ». Sa fonction dans le conseil restait exactement la même, mais il semblait tenir à ce nouveau nom. Alix avait accepté, surprise qu'un garçon aussi sérieux que Génor attache autant d'importance à un détail aussi futile. Au fur et à mesure qu'elle progressait sur le quai, elle remarqua un autre détail étrange. Un œil avait été peint sur la coque de l'albatros, un œil immense, jumeau de ceux des hiéroglyphes du pavillon des savants, l'œil d'Horus. Le même que celui dessiné sur la couverture du livre de Mordelia, si l'on en croyait les souvenirs de Gulot-Gulot. Qui l'avait peint? L'un des savants? Parce que l'œil d'Horus représentait la protection, la chance, le pouvoir de lire l'avenir? La ressemblance avec le cartouche du livre secret de Mordelia, dont seul Valère et une poignée d'ados avaient connaissance, n'était-elle qu'une coïncidence? Elle essaya de chasser toutes ces questions de son esprit. Il y avait d'autres urgences. Alix s'arrêta au bord du quai, fit pivoter le fauteuil du grand cerf, et se tourna vers la foule. Elle avait choisi de ne prononcer que trois mots. Trois mots que retiendrait toute l'assistance. Encore quelques secondes. Sabi et ses Lolly Girls chantaient encore. Vous qui partez serez nos yeux, nous garderons votre cœur. À côté d'elle, Lunella s'était arrêtée pour lancer un baiser qui s'envola entre deux cerfs-volants vers Solario, son frère jumeau. Tous les deux étaient capables de communiquer par télépathie. Leur étrange connexion serait l'unique moyen d'avoir des nouvelles de l'albatros lorsqu'il aurait disparu en aval du fleuve. Zizo était resté en retrait, mais lui aussi levait les yeux vers le point le plus haut, au-dessus de la hune du grand mât, où Agnel, perché, fixait déjà l'horizon. Agnel, son ami, le quittait une nouvelle fois. Agnel, l'enfant oiseau. Agnel, qui portait sur le monde un regard d'une bonté absolue. Zizo espérait que ce qu'il découvrirait en naviguant sur le fleuve ne lui ferait pas perdre cette innocence, cette croyance absolue que la terre avait été conçue pour être parfaite, au moins vue d'en haut. Si parfaite qu'il fallait s'y poser le moins possible, comme les oiseaux, par peur de l'abîmer. À la rigueur, y flotter. Zizo essaya de repenser aux derniers mots qu'Agnel avait prononcés, en le serrant dans ses bras, avant de grimper à la vitesse d'un échassier sur l'albatros. « Prends soin de toi, mon petit surmulot. » Et sois prudent quand tu croiseras l'ange démon volant. Le souvenir des ultimes recommandations d'Agnel fut balayé par l'impressionnant silence qui enveloppa soudain chaque rive du fleuve. Alix venait de lever la main. La foule entière retenait son souffle. La reine baissa son bras. D'un même geste, les ministres libérèrent les amarres. Akane se pencha entre le quai et l'albatros et, à l'aide d'une longue poutre, large comme 10 baux, poussa de toutes ses forces la coque pour que le bateau se sépare de son port d'attache. Sabi admira quelques secondes les muscles de l'ado tendus par l'effort, puis cria «
Baisse-toi !»
Sans attendre sa réaction, elle jeta sur la coque la bouteille de jus de raisin fermenté qu'Honora lui avait fournie. Le projectile rasa la tête du secrétaire général de la paix et se brisa pile sur l'œil d'Horus, qui en pleura des larmes pétillantes. L'albatros, lentement d'abord, s'éloigna. Brasa, à la barre, le laissa dériver vers le milieu du fleuve. Les 20 marins étaient presque tous montés sur les mâts pour saluer la foule.
« Fluctuat nec mergitur !»
lança Alix à plein poumon. Et tous répétèrent dans le plus incroyable des tumultes
« Fluctuat nec mergitur !»
Les hurrahs explosèrent. Les cordes des cerfs volants, furent coupées pour qu'ils puissent accompagner le voilier le plus longtemps possible. Tous les ados riaient, chantaient, criaient encore quand l'albatros disparut après le premier méandre, ne laissant derrière lui que des clapotis dans l'eau grise de la Seine et un panorama vide. En route vers le Nouveau Monde. Chrysante s'assit sur le bord du quai, indifférente au vacarme qui doucement baissait d'intensité.
« Tu vois, Lali, les hommes ont peur d'être seuls. Ils s'ennuient. C'est pour ça qu'ils veulent toujours aller voir ailleurs. »
Elle serra tendrement sa poupée dans ses bras.
« Mais dès qu'ils ne sont plus seuls, ils ont peur des autres. Et ça, crois-moi, ça provoque encore plus d'ennuis. »